le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Lui est le véritable, il est Dieu et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Jusqu'ici, notre lecture. On mesure l'intelligence d'un individu et la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter, déclare le philosophe allemand Emmanuel Kant. Sur la base du texte que nous venons de lire, nous pourrions répondre à cette phrase, répondre à cette déclaration. Autant que chrétien, on mesure l'intelligence de la foi d'un croyant à la quantité, non pas d'incertitude, mais de certitude qu'il est capable de comprendre et d'assimiler, bien sûr, certitude fondée sur l'Écriture. Et parmi les certitudes fondées sur l'Écriture que nous sommes appelés à comprendre, à assimiler et à savoir, il y a trois que Jean nous rappelle dans ces versets que nous venons de lire. Et il les introduit toutes, à chaque fois, par « nous savons que ». Au verset 18, « nous savons », verset 19, « nous savons », le verset 20, « nous savons ». Ces certitudes sont des affirmations, bien sûr dogmatiques, théologiques, qui sont bien au-delà de toute contestation. La première affirmation que Jean nous rappelle ici est que nous savons que nous sommes nés de Dieu au verset 18. C'est ce qu'il a déjà écrit précédemment au début de ce chapitre en disant que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, nous reconnaissons en effet et nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui a vécu parmi les hommes, est le Christ, le Fils de Dieu, qui a toujours existé auprès de Dieu et qui est venu parmi nous. Et c'est là que Jean, au chapitre 4, cette fois-ci au verset 13, nous dit « À ceci, nous savons que nous demeurons en Dieu, comme lui en nous, ce qu'il nous a donné son esprit. C'est par son esprit que nous croyons en Christ et que nous confessons le Seigneur. C'est par l'esprit que nous arrivons à comprendre la divinité de Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu qui a toujours existé, venu parmi nous. Seul l'Esprit de Dieu nous permet de reconnaître profondément l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ en se servant de bien des moyens, notamment de sa parole. Mais c'est l'Esprit qui nous permet de reconnaître, de confesser que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu vivant et que c'est par lui que nous disons qu'il est le Seigneur. Par la nouvelle naissance, nous sommes donc nés de Dieu et nous devenons enfants de Dieu, pouvons l'appeler Abba, Père, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Une fois que nous sommes nés de Dieu, nous demeurons en Dieu et pour toujours. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose qui se perd ou quelque chose qui est juste pour un temps, mais qui disparaît, mais bien au contraire, c'est une naissance nouvelle qui nous introduit dans une réalité nouvelle, dans la nouvelle création, pour toujours et définitivement. C'est une réalité permanente. Cette nouvelle naissance, le fait que nous soyons nés de Dieu, en Dieu, a pour résultat un comportement nouveau. Le péché est incompatible avec ce nouveau statut que nous venons de recevoir, avec cette nouvelle nature que nous venons de recevoir en Dieu. Le verbe « nous pêche plus » est justement conjugué au présent pour souligner que « nous pêche plus » est une réalité présente et non pas simplement quelque chose à venir, c'est-à-dire quelque chose que nous vivrons pleinement, totalement, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Mais dès à présent, nous ne pêchons plus, nous dit Jean dans ce passage. La conséquence directe de notre statut d'enfant de Dieu est de ne plus pécher. C'est ce que Jean déjà avait écrit au chapitre 3 en disant « Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché ». Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'on ne peut plus commettre ou tomber dans le péché. Mais cela veut dire que nous ne vivons plus dans le péché, que notre vie normale n'est pas dans le péché, mais notre vie normale est dans cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée et qui est incompatible avec le péché. Le contraire de celui qui est né de Dieu est celui qui n'est pas né de Dieu, justement. Et celui-là, celui qui n'est pas né de Dieu, demeure, lui, par contre, dans le péché, ce péché qui conduit à la mort. Et c'est de ce péché dont a parlé Jean, juste dans les versets qui précèdent le texte que nous venons de lire. Ce péché consiste à refuser volontairement de croire dans l'œuvre et dans l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il refuse donc ce péché qui conduit à la mort, refuse de croire dans l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de reconnaître qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Et les faux enseignants que Jean combat, notamment dans cet épître, les faux enseignants rejettent l'œuvre et l'identité du Christ tel qu'il est vraiment révélé dans l'Évangile. Et en agissant ainsi, ces personnes montrent simplement qu'elles ne sont pas nées de Dieu, justement. C'est pourquoi elles continuent à pécher, elles continuent à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et celui qui commet un tel péché, dit Jésus, affirme Jésus aux religieux de son temps, commet un péché coupable et coupable d'un péché éternel. Par contre, celui qui est né de Dieu ne pêche plus, dans le sens qu'il ne veut plus, qu'il ne vit plus, pardon, dans le péché, mais il mène une vie conforme à la nouvelle vocation qu'il a reçue, une vie conforme au nouveau statut qu'il a reçu de Dieu en Jésus-Christ. Jean donne deux raisons pour lesquelles nous ne pouvons plus vivre dans le péché, continuer à vivre dans le péché comme autrefois, lorsque nous étions encore dans l'ignorance sans Christ. La première raison est que l'engendré de Dieu ne garde, c'est-à-dire le Fils de Dieu ne garde. Certaines traductions, sur la base de certains manuscrits, traduisent en fait cette deuxième partie du verset 18 par « celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même », c'est-à-dire c'est le chrétien qui se préserve lui-même et qui se garde lui-même de péché. Il est vrai que dans la Bible, il y a des exhortations dans ce sens, c'est-à-dire la Bible nous encourage à nous préserver du péché, à nous préserver du mal. C'est par exemple l'apôtre Paul qui demande à Timothée de ne pas se précipiter à imposer les mains sur les autres, pour les autres, en lui disant « fais attention à toi-même et garde-toi ». Il a la responsabilité de se préserver, de se garder pur du péché. En même temps, si nous devions compter que sur nous-mêmes pour résister au péché, nous aurions vraiment du mal à être apaisés et à garder notre confiance. Nous serions presque tous les jours, tout le temps, en train de nous accuser, vu la gravité de notre situation et la gravité du péché qui peut nous frapper. Car nous savons que notre nature, simplement, est marquée profondément et pas simplement superficiellement, par le péché, et de ce fait, nous serions incapables de résister au péché par nos propres forces et nous garder nous-mêmes du péché ou du malin ou du mauvais. Voilà pourquoi, donc, il me semble qu'il faut favoriser une deuxième lecture de cette traduction, de la traduction de la deuxième partie de ce verset 18, qui, elle aussi, se base sur d'autres manuscrits. Et cette deuxième lecture considère que c'est le Fils de Dieu, l'engendré de Dieu qui protège le chrétien et non pas le chrétien qui se protège soi-même. C'est la raison pour laquelle la Bible Semeur, traduit par exemple le Fils de Dieu le protège, c'est-à-dire le Fils de Dieu protège le chrétien, ou encore la Tobe qui veut rester proche du texte traduit l'engendré de Dieu le garde, c'est-à-dire l'engendré de Dieu garde le chrétien. Comme je vous disais, cette traduction aussi se base sur d'autres manuscrits importants et indique clairement que c'est l'engendré de Dieu qui protège le chrétien, c'est le Christ qui nous garde pour ne pas pécher. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous arrivons à nous délivrer du péché, à nous préserver du péché, mais c'est par la vie que Christ met en nous. Cette traduction va aussi dans le sens de l'enseignement de la parole de Dieu qui nous est donné dans son ensemble. Et la Bible précise que si nous pouvons garder le commandement de Dieu, certainement ce n'est pas par nos propres ressources et par nos propres forces, mais par le Christ que nous pouvons garder le commandement de notre Seigneur. Et dans sa prière, Jésus, lorsqu'il a prié pour ses disciples, il dit au Père, dans Jean 17, « Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui, le fils de la perdition, celui qui devait se perdre pour que la part de Dieu, pour que les Écritures s'accomplissent. » Jean 17. Le Seigneur donc nous garde pour ne plus vivre, pour ne plus pratiquer le péché comme autrefois, sans avant notre nouvelle naissance, sans avant de connaître le Christ sans Christ. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons plus, nous ne vivons plus dans le péché, c'est parce que le mauvais n'a plus de prise sur nous. Le diable est toujours actif dans notre monde. Il agit avec violence et il essaie de séduire tout le monde, y compris parfois les élus, les chrétiens. Certes, nous sommes nés de Dieu, mais nous ne pouvons pas faire face seuls au diable et à ses ruses. Il est rusé, il connaît très très bien la nature humaine, il connaît bien nos faiblesses humaines, mais il n'a pas de prise sur nous, nous dit ici Jean. Il n'a pas de prise car le Christ nous garde, car le Christ veille sur nous et personne ne pourra nous arracher de sa main, dit encore le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Quelle belle promesse que de savoir que nous sommes entre les mains de notre Seigneur et que notre Seigneur est le Maître, le Seigneur, celui qui a vaincu tout et celui qui a emporté la victoire totale à la croix. Rien donc ne peut nous arriver, même un cheveu dans nos têtes qui tombe par terre sans que ce soit su, vu par notre Dieu, par notre Père qui nous aime tellement. Et si notre Père le voit, si notre Père le permet, lui qui nous aime, c'est de quoi nous avons vraiment besoin. Nous sommes donc nés de Dieu et nous sommes engagés par Dieu sur cette nouvelle voie, dans cette nouvelle vie qu'il nous a accordée, une vie nouvelle, une vie de consécration et de sanctification. En plus d'être nés de Dieu, nous sommes et nous demeurons toujours en Dieu, et c'est la deuxième affirmation, c'est la deuxième certitude que Jean énonce au verset 19. Nous sommes de Dieu. En Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu, et avec tous les privilèges que cela implique, Jean on a déjà mentionné quelques-uns tout au long de son épître, comme par exemple être au bénéfice de la parole de Dieu au chapitre 4, ou encore devenir des enfants de Dieu au chapitre 3, connaître l'amour du Père toujours au chapitre 3, et enfin devenir semblable à Christ lorsqu'il reviendra. Tels sont entre autres les grâces, les privilèges dont nous sommes au bénéfice tout en étant et en demeurant en Dieu. Face à cette belle réalité que nous vivons en tant que chrétiens, Jean nous rappelle une autre réalité beaucoup plus triste. Le monde tout entier gît sous l'empire du mauvais ou du malin. Précédemment, Jean a déjà souligné que les chrétiens, les jeunes gens dans la foi, ont su résister au mauvais, au malin. Mais il a souligné aussi quelques-uns n'ont pas su résister au malin. Et c'était le cas de Caïn qui a tué son frère Abel. Ici, Jean souligne en fait que c'est le monde entier qui est sous l'emprise du malin, sous la domination du diable. Le monde se retrouve sans force devant le diable. Il gît tranquillement, peut-être même endormi inconsciemment dans les bras de Satan. Le monde continue à avancer selon le prince de la puissance de ce monde, selon cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2. Et il poursuit en disant, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Si nous sommes aujourd'hui en Dieu, c'est par grâce, par pure grâce, uniquement par grâce. Et c'est ce que Paul aussi va préciser juste dans les versets qui suivent ce passage d'Éphésiens. Il le dit à deux reprises, c'est par grâce que Dieu nous a sauvés. C'est par grâce que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de autrefois héritée de nos pères. Oui, c'est par la seule grâce de Jésus-Christ. La question maintenant qui se pose, ou devrais-je dire qui s'impose, est de savoir à qui appartenons-nous. Sommes-nous nés de Dieu et en Dieu, ou sommes-nous dans le monde, dominés, livrés aux mauvais, aux malins, à Satan? Il y a uniquement deux possibilités. Soit nous sommes en Dieu, soit nous sommes dans le monde, livrés à la guise de celui qui le demande et qui le domine. Soit nous sommes de Dieu, et dans ce cas-là, nous sommes gardés par le Fils, par l'engendré de Dieu, préservés. Soit nous sommes dans le monde, nous appartenons à ce monde, et par conséquent, sous la domination du diable. Dans un monde où on veut nuancer tout, où on veut colorer tout, il est parfois nécessaire de dire les choses très clairement. Mettre la nuance là où il y a, là où c'est nécessaire, c'est très bien. Mais mettre la nuance là où il n'y a pas, où ce n'est pas nécessaire, ça reviendrait à tromper les gens, ne pas dire la vérité. Ici, il n'y a pas une troisième place. Il y a soit nous sommes en Dieu, soit nous ne le sommes pas. Et si nous ne sommes pas en Dieu, nous sommes sous la domination du diable. Si nous ne sommes pas encore en Dieu, nés de Dieu, sous la protection du Fils, sachant qu'aujourd'hui encore nous pouvons être au bénéfice de cette protection, le Fils de Dieu, l'engendré de Dieu, est prêt et veut nous offrir cette protection. Mais c'est à nous, à chacun, de venir, de revenir sous la protection du Fils de Dieu pour qu'il soit protégé, préservé du désastre, du dominateur de ce monde, même si parfois il le fait d'une manière douce, mais un poison, qu'il soit donné d'une manière douce ou d'une manière violente, finira toujours par conduire à la mort. Venons, revenons vers le Fils qui lui peut accorder une protection totale, permanente, pour tous ceux et celles qui se confient en lui. Troisième et dernière affirmation de notre texte porte sur justement le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu qui est venu et qui nous donne l'intelligence de le connaître, l'intelligence de connaître Dieu. Comment pouvons-nous échapper à la domination du malin? Comment pouvons-nous être délivrés des griffes de Satan? C'est simplement en connaissant le Fils de Dieu. C'est en connaissant ce Fils qui est venu dans notre monde et de nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous faire passer dans son admirable lumière, comme nous l'avons lu lors de cette première partie de culte. Pour être au bénéfice de cette libération, il faut là aussi deux choses. D'abord, le Fils de Dieu, il faut qu'il soit venu dans le monde pour triompher à la croix du péché, du malin, du mauvais et d'une manière définitive. C'est fait, chose faite, il l'a fait. Et c'est ce que Jean a rappelé au chapitre 4. Le Jésus-Christ est venu en chair à payer le prix. C'est aussi ce que les évangiles nous rappellent. Tous les évangiles nous parlent de la venue du Fils de Dieu qui a été depuis toute l'éternité, dès le commencement auprès de Dieu, venu parmi nous, a été à la croix pour triompher définitivement et offrir le salut, la protection finale et totale pour tous ceux et celles qui se tournent vers le Seigneur. Pour être au bénéfice de la venue du Fils de Dieu, il faut le connaître. Et c'est la deuxième condition que Jean souligne dans ce verset 20. Il faut connaître ce Fils de Dieu, sinon nous resterons toujours privés de cette liberté qu'il offre, de cette protection qu'il offre. C'est le Fils de Dieu qui affranchit, qui libère de l'esclavage du péché. C'est lui qui rend réellement libre ceux qui se tournent vers lui et qui mettent leur foi en lui. Comment le connaître? C'est grâce à l'intelligence qu'il nous donne. Cette intelligence vient de la parole de Dieu qui transforme nos raisonnements, qui transforme nos raisonnements et qui renouvelle nos pensées pour comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour la création, pour nous les êtres humains qu'il a créés en son image. Oui, c'est la parole qui nous fait comprendre l'amour que Dieu manifeste, a manifesté en Jésus-Christ venu parmi nous. D'où l'exhortation de l'apôtre Paul en disant « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien des siècles auparavant, par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur déclare déjà que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur. Dieu a tout fait pour se faire connaître. Il a envoyé son Fils pour se révéler pleinement à nous, à tous. Et c'est en son Fils, Jésus-Christ, que nous pouvons vraiment connaître, le connaître, que nous connaissons le véritable, comme Jean l'indique dans ce verset, au verset 20. Le véritable, le Dieu unique, vivant et vrai. C'est en son Fils Jésus-Christ que nous avons la communion avec Dieu, avec notre Père. En d'autres termes, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et nous, entre Dieu et les hommes, le seul. C'est lui le médiateur d'une alliance nouvelle dans laquelle nous sommes au bénéfice de ce que Dieu avait promis autrefois par les prophètes. Même si nous n'étions pas des nombres des bénéficiaires, humainement parlant, naturellement parlant, en Jésus-Christ, nous devenons bénéficiaires de toutes les promesses de Dieu et des alliances d'autrefois. Jésus-Christ a annulé les conséquences du péché d'Adam sur notre vie. Il nous a réconciliés avec notre Dieu, avec notre Père, par sa mort à la croix. Et aujourd'hui, il intercède. Encore, à la droite de Dieu, il prie, il intercède pour nous auprès de Dieu. Oui, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons venir, nous pouvons revenir à Dieu, nous pouvons connaître Dieu et nous pouvons être toujours avec Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans connaître le Christ. De même, être en Dieu, c'est être en Jésus-Christ, c'est être en Christ. Nous ne pouvons pas prétendre être en Dieu sans être en Christ. C'est dans le Fils que nous pouvons vraiment connaître et être dans le Père. Et c'est cela que Jean avait déjà mentionné au chapitre 2, verset 23 de cet épître, en disant « Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu » ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Connaître le Fils et le Père, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir la vie et la vie éternelle que Dieu nous offre. En tant que chrétiens, nous avons donc la vie éternelle parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous demeurons en Dieu, parce que nous sommes et nous connaissons le Fils, une triple certitude qui habite tout enfant de Dieu, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, une triple certitude qui doit nous habiter, nous guider et nous diriger. Jean termine cet épître par une exhortation. Gardez-vous des idoles, gardez-vous des idoles. Le fait d'être né de Dieu, de demeurer en Dieu et de connaître le Fils de Dieu nous conduit naturellement à rejeter toute idole, toute forme d'idolâtrie, car nous connaissons le seul vrai Dieu. En effet, et nous savons aussi qu'en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Il n'existe rien qui lui soit comparable, comme le dit le Seigneur lui-même par la bouche du prophète Isaïe. Encore l'apôtre Paul qui déclare qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, lorsqu'il répond à la question qui lui a été posée par les Corinthiens concernant la viande sacrifiée aux idoles. Quelles sont donc ces idoles auxquelles Jean nous demande de faire attention? L'ensemble de cet épître et le contexte de l'époque plaident à voir derrière ces idoles les fausses conceptions de Jésus et par conséquent les fausses conceptions de Dieu. qui étaient enseignés, véhiculés particulièrement par les faux enseignants de l'époque et qui circulaient un peu partout parmi les églises. Et au chapitre 4, il est question de ces personnes qui répondaient des faux enseignements, des enseignements qui refusent de reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair. Et parmi ces enseignements, ces faux enseignements qui circulaient, il y en a deux. Le premier prétend que Jésus-Christ n'est pas vraiment un homme, mais un pur esprit. Et le deuxième, au contraire, prétend que Jésus-Christ est un simple homme, donc il nie l'incarnation, et qu'il est devenu le Christ, le Fils de Dieu, juste à son baptême, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et ces deux faux enseignements véhiculent une fausse conception de Christ, qui seul peut nous révéler Dieu, et par conséquent, il véhicule une mauvaise conception de Dieu lui-même. Ne pas connaître Dieu, reconnaître le Fils, ne pas connaître et reconnaître le Fils tel qu'il est, ne permet pas de connaître Dieu le véritable tel qu'il est. Et dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie que reproche le Seigneur à son peuple peut être parfois, justement, cette fausse conception de Dieu. Prenons l'exemple du veau d'or. Ce qui a motivé la fabrication du veau d'or n'était pas un détournement de Dieu. Le peuple d'Israël ne voulait pas se détourner de Dieu, mais une volonté simplement d'avoir une représentation visible et physique de leur Dieu au milieu d'eux, comme c'était le cas parmi les Égyptiens. Et la preuve de leurs bonnes intentions, si on peut s'exprimer ainsi, c'est le fait que les Israélites ont célébré une fête pour le Seigneur après avoir fabriqué ce veau d'or. Et le terme qui est employé pour le Seigneur, c'est Yahvé, l'Éternel. Ils ont fait la fête pour le Seigneur après avoir construit le veau d'or. Et à la fin, ils se sont levés de bon matin, le lendemain, pour offrir des holocaustes et pour présenter des sacrifices de paix pour le Seigneur. C'est dans Exode 32 que cette histoire est rapportée. La mauvaise conception de Dieu conduit le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Ce qui sera condamné d'ailleurs d'une manière très forte lorsque Moïse descendra de la montagne de Sinaï, parce qu'il est monté pour recevoir les tablettes de la loi. Et au retour, il trouve donc le peuple s'est engagé sur cette mauvaise voie, cette mauvaise conception de celui qu'il avait sauvé, de celui qu'il avait délivré. Les fausses conceptions de Dieu peuvent conduire à l'idolâtrie. Et c'est ce qui amène Jean à faire ici un lien entre les fausses doctrines qu'il a combattues tout au long de son épître et aussi, c'est-à-dire les hérésies et l'idolâtrie qu'il évoque ici. Naître de Dieu, demeurer en Dieu et connaître le Fils nous conduisent naturellement à avoir une vision plus juste, de plus en plus, de notre Dieu, et il nous écarte de toute forme d'idolâtrie, même lorsqu'elle s'exprime sous l'aspect de fausse conception de Dieu, de notre Dieu. Maintenant que nous savons toutes ces certitudes, que le Seigneur nous donne simplement de vivre de ces certitudes par son esprit. Amen.